France Info.
Bonjour à tous. La technologie change le monde. Green tech, food tech, med tech, fintech. L'innovation tente de rendre ce monde un peu meilleur. Alors où en sommes-nous et que se passe-t-il en France? Eh bien, pour le savoir, bienvenue dans ce podcast exceptionnel proposé par France Info en partenariat avec Les Échos à l'occasion du salon VivaTech, le salon, vous le savez, consacré à l'innovation qui se déroulera à Paris du 16 au 18 mai prochain pendant 5 semaines. Chaque samedi, on va se retrouver jusqu'à l'ouverture de VivaTech et on va plonger ensemble dans l'innovation technologique à la française. Alors, on va s'intéresser à tous les domaines, en tout cas les domaines dans lesquels on innove aujourd'hui, l'environnement, la mobilité, la santé, l'alimentation ou encore la finance. Un format inhabituel, hein, vous le voyez, vous l'entendez, un long format, principalement en audio, mais également en vidéo. Vous nous regardez peut-être actuellement sur la page de France Info consacrée à ce podcast, avec des invités que nous allons vous présenter dans un instant. Je suis Jérôme Colombin de France Info et je suis avec mon confrère Guillaume Brégeras du journal Les Échos. Bonjour Guillaume.
Bonjour Jérôme.
Alors dans ce premier épisode, eh bien, on va parler d'environnement, on va parler de technologies au service de l'environnement, les fameuses Green Tech avec nos invités. C'est parti.
Nouveau Monde, spécial VivaTech 2019, présenté par Jérôme Colombin de France Info et Guillaume Brégeras du journal Les Échos.
On les appelle donc les Green Tech, ces technologies au service de l'environnement. Elles font partie des Good Tech, les technologies qui sont bonnes pour la planète et pour nous, en principe. Un secteur qui est en plein boom, hein, Guillaume.
Exactement, Jérôme. C'est un secteur en pleine forme, puisque l'année dernière, sur les levées de fonds, c'est-à-dire le nombre d'argent qui a été levé par les entreprises, elles ont levé 188 millions d'euros. 30 entreprises ont levé cette somme au total. C'est le troisième secteur le plus financé en France en 2018, ce qui est signe quand même de sa bonne santé.
Sa bonne santé et donc de sa capacité d'innovation. Nos invités, ce sont tout d'abord Stéphane Quéré, Chief Operating Officer Global Smart Businesses de Engie.
Bonjour.
Engie, opérateur d'énergie, bien entendu. Avec vous, tout à l'heure, on s'intéressera à ce que la technologie peut faire pour rendre l'énergie encore plus propre. Autre invité, Paul Benoît, fondateur de Carnot Computing. Bonjour.
Bonjour, Jérôme.
Alors, Carnot, c'est cette start-up française qui fabrique des chauffages alimentés par des serveurs informatiques. Et puis Pierre Guiton, fondateur et président de Tekoya, vous fabriquez,
bonjour,
des purificateurs d'air innovants car ils sont respectueux de l'environnement. Il paraît que le monde entier nous les envie. Vous allez nous expliquer ça puisque dans cette émission, n'est-ce pas Guillaume, on va donner la parole très largement, notamment aux startups qui sont extrêmement actives en France. On va commencer avec vous, Paul Benoît de Carnot Computing. C'est une startup, mais c'est pas une entreprise toute jeune. Vous avez déjà une belle activité, un beau bilan derrière vous. Donc, rappelez-nous exactement ce que fait Carnot.
Alors, Carnot, c'est une société française qu'on a créée en 2010, dont la vocation est de récupérer la chaleur produite par les ordinateurs, notamment pour chauffer des bâtiments. En fait, on est parti d'un constat dans un certain nombre d'industries qu'on utilise de plus en plus de serveurs informatiques et que ces serveurs informatiques, en général, sont hébergés dans ce qu'on appelle un data center. Alors, assez peu de gens en ont visité, mais si vous avez l'occasion, c'est un endroit assez impressionnant.
On visualise bien quand même de quoi il s'agit, hein,
ces espèces c'est des fermes, en fait, on appelle ça des fermes. Ouais. C'est un peu les fermes de 1000 vaches, hein,
oui.
C'est un peu
ça. Il n'y a pas de vaches, il n'y a que des
serveurs informatiques. Et c'est un peu les vaches d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'on les met les uns à côté des autres, ils sont tous serrés les uns contre les autres. Et ça consomme énormément d'énergie. Ouais. Et ça dégage de la chaleur. Enfin, en fait, c'est le principe de toutes les machines, ça dégage de la chaleur. Donc, il faut les refroidir. Donc, souvent, on reconnaît les data centers au nombre de climatisations qu'il y a sur le toit de ces fameuses usines.
Ouais. Donc, et tout c'est ça, complètement énergivore.
C'est très, très énergivore. Après,
il faut de l'énergie pour les faire tourner, il faut de l'énergie pour les refroidir.
Exactement. Et ce besoin en puissance informatique n'a fait qu'augmenter. Alors, moi, j'ai toujours travaillé dans l'informatique. C'est un phénomène qu'on voyait poindre déjà au milieu des années 2000. Et ça n'a fait que se confirmer, hein. les gens connaissent un peu la loi de Moore ou ce genre de choses, mais en fait chaque année...
C'est le fait que les ordinateurs deviennent toujours de plus en plus puissants.
Les ordinateurs deviennent de plus en plus puissants, mais on en utilise surtout de plus en plus. Donc les besoins ne font qu'augmenter, et en gros tous les 5 ans on double notre consommation électrique en gros liée à l'informatique. Et aujourd'hui ça commence à vraiment se voir, c'est-à-dire qu'en France on est à peu près à 10% de l'électricité française qui est consommée par ces fameux data centers et les écosystèmes qu'il y a derrière. Donc nous en fait on s'est dit, toute cette énergie, on va essayer de la dégager là où il y a des gens qui peuvent se servir de cette chaleur, plutôt que de dépenser des fortunes pour l'évacuer. Ce qui est le cas dans les data centers, toutes ces clims, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent.
Donc vous avez mis au point en fait un radiateur.
Voilà, alors la première étape, ça a été ça. Ça a été d'abord sous forme de radiateur. Donc c'est des radiateurs qu'on a déployés dans des logements sociaux à Paris. Là, on vient de le faire également à Bordeaux dans un bâtiment neuf pour la première fois. Donc ce sont des radiateurs dans lesquels on a mis des serveurs informatiques. Et le radiateur, lui, se comporte comme un radiateur. La différence avec un radiateur normal, c'est qu'il est connecté à Internet. Donc du coup, ça lui permet de travailler à distance.
C'est un radiateur ordinateur.
Voilà, c'est un radiateur ordinateur. Donc, on a un peu fusionné les deux. Alors, aujourd'hui, on travaille principalement avec des bailleurs sociaux. On travaille pas avec les particuliers, malheureusement. On aimerait bien. Parce que
oui, je peux pas aller dans un magasin de bricolage acheter
encore,
un radiateur.
Pas encore. Après, voilà, c'est une technologie qui est nouvelle. On passait un peu pour des extraterrestres quand on s'est lancé là-dedans. Et aujourd'hui, voilà, c'est utilisé sur le territoire français.
C'est combien de temps pour développer cette technologie, quand même, qu'on se rende compte?
C'est assez long parce que d'abord, il a fallu faire les premiers. R&D, les premiers prototypes. Donc ça nous a pris 2 ans pour avoir les premiers prototypes. Alors avec l'aspect matériel, c'est-à-dire les radiateurs eux-mêmes, et l'aspect logiciel, c'est-à-dire pour pouvoir faire en sorte que le radiateur qui va être déployé dans un logement social puisse être exploité par une entreprise qui a besoin de cette puissance de calcul.
Et aujourd'hui, combien de logements?
Alors aujourd'hui, on gère, on a à peu près 1 millier de radiateurs qui sont déployés. Voilà, donc mais c'est long parce que derrière, il y a le temps. On touche à un sujet qui est le sujet du bâtiment. Alors aujourd'hui, on touche aussi de nouveaux types de bâtiments. On a monté une entreprise commune avec un grand groupe de la distribution française pour justement équiper aussi des entrepôts. Donc là, c'est avec le groupe Casino. On a monté une joint venture où en fait, on va déployer de la puissance de calcul dans des micro data centers adossés à des entrepôts. Et donc, on utilise toujours cette même logique logicielle, donc pour pouvoir exploiter la chaleur et pas dépenser plein d'argent et plein d'énergie comme c'est le cas quand on construit spécifiquement un data center.
Je me tourne un instant vers Stéphane Quéré d'Engie. C'est génial l'initiative comme ça, non?
Oui, on connaît bien Carnot.
Vous les connaissez déjà?
Oui.
Évidemment.
Ouais. On s'est croisés plusieurs fois en France.
Ça veut dire
que
vous faites des choses avec eux? Vous avez prévu de faire des choses avec eux?
On regarde.
Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une spécificité française? Quels sont vos concurrents dans le monde?
Alors, c'est plus tout à fait une spécificité française. C'était bien au début, c'était vraiment très spécifiquement français. Il y a des gens qui se sont dit, tiens, on va faire des chaudières, on va faire... donc, il y en a eu aux Pays-Bas, il y en a eu en Allemagne. Donc, il y en a eu une en France, mais qui a pas duré. Ce qui est certain, c'est que le sujet de l'énergie dans les data centers est devenu un sujet... au niveau mondial. Les grands GAFA aujourd'hui ont ces sujets-là sur la table.
Oui, alors il paraît qu'ils cherchent même à installer leur data center le plus près possible du pôle Nord pour que ça puisse se refroidir.
Exactement.
C'est ce qu'ils font, le plus facilement possible.
Typiquement, etc. Facebook s'est installé en Suède parce que le froid est gratuit. En fait, ce qui coûte cher, c'est le froid. Donc,
jusqu'où vous pouvez aller, vous? Quel est le rendement? Qu'est-ce que...
Nous, ce dont on est persuadé chez Carnot, c'est qu'effectivement, le besoin de puissance informatique va ne faire qu'augmenter. Donc, on peut essayer de réduire notre consommation de puissance de calcul, mais c'est peu probable. Donc, ça, c'est une première
chose. Que dans les conseils, par exemple, qu'on donne aux gens pour essayer de limiter un peu l'empreinte carbone, c'est vrai que parfois, on dit, attention, si vous laissez trop de mails dans votre messagerie, au lieu de les effacer, ça consomme. L'envoi de pièces jointes à tire-larigot, ça consomme aussi.
Oui, les gens consomment, mais en fait, c'est qu'une petite partie. C'est pas parce que vous effacez vos mails que tout d'un coup, les choses vont s'arrêter. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils consomment? C'est que les GAFA font énormément d'analyses sur tous vos mouvements. Vous prenez le métro derrière, il va se passer des choses dans les data centers. Vous prenez n'importe quel moyen de transport, vous faites n'importe quelle transaction derrière, vous engendrez. Alors, soit vous restez reclus, alors c'est une solution aussi. Mais aujourd'hui, les gens vont générer de plus en plus de données qui vont être de plus en plus analysées. Alors après, la question,
on va en réalité vers une augmentation inexorable.
C'est assez inexorable. La limite, c'est l'énergie. C'est-à-dire que il y a un moment, ça va coûter trop cher en énergie et les gens vont le payer. Donc nous, on pense qu'il faut ouvrir des nouvelles solutions. Le fait de répartir cette puissance informatique plutôt que de la concentrer, on pense que c'est une solution qui nous permettra d'avoir plus de puissance informatique demain. C'est une chance que ça soit né en France. Même aujourd'hui, il se trouve qu'il y a aussi des solutions qui émergent en ce moment en Allemagne, aux Pays-Bas, etc., avec qui je pense qu'il faut travailler. Mais on est face à un gisement énergétique qui est potentiellement très très important.
Est-ce que c'est une technologie qui coûte cher ?
Alors, pour une petite structure comme nous, forcément, c'est des efforts qui sont assez importants. Nous, on a vraiment fait émerger un modèle nouveau, avec une approche complètement nouvelle, avec une approche logicielle complètement nouvelle.
Après, voilà. C'est plutôt élégant, vos radiateurs.
Merci.
un peu massif, hein, malgré tout.
Oui, mais... alors, ça reste un objet qui s'appelle un radiateur. Ça reste, c'est... quand vous en parlez à un ingénieur, un radiateur est forcément un petit peu massif toujours.
Ouais. Mais
après, pour nous, c'était un point important parce qu'on pense que ça fait partie aussi de l'acceptabilité. C'est-à-dire que les révolutions, même l'informatique, quelque part, quand beaucoup de gens sont des fans de Steve Jobs, effectivement, il a fait accepter un objet assez austère qui est l'ordinateur. Aussi parce que voilà l'objet
grâce à l'esthétique, le design, le marketing,
le design, l'ergonomie, tous ces choses là comptent. Donc nous à notre échelle on a fait cet effort là parce qu'on pense que ça, ça compte.
Vous considérez comme ce qu'on appelle une tech for good?
Alors ça c'est une je vous entendais énumérer tout à l'heure la liste des c'est vrai qu'on maintenant on met des acronymes sur tout, hein, c'est tech for good, green tech, enfin faut toujours être dans une case. Nous
dans
on a
case.
Toujours eu tendance à dire on est ni écolo ni ce que vous voulez. On est juste des gens qui aiment l'informatique. On pense que si on veut en tirer quelque chose, il faut pouvoir faire ça de manière efficace. Les informaticiens aiment toujours l'efficacité et le sujet de l'énergie est assez central. Et on pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Nous, on est passionnés par le fait qu'on touche à l'informatique, mais on va aussi chez des gens installer des radiateurs. On discute avec des centres de recherche qui font des calculs très très sophistiqués auxquels nous-mêmes on comprend pas toujours grand-chose. Et puis on travaille aussi dans plein d'autres secteurs, le secteur de la finance. Vous parliez de la fintech. La fintech est très gourmande en puissance
très consommatrice. Ouais.
Oui. Ça veut dire que si j'achète je peux pas l'acheter, mais si j'avais un radiateur Carnot chez moi, il serait peut-être en train pour me chauffer l'hiver de fabriquer du Bitcoin.
Alors, c'est pas trop le Bitcoin, c'est un peu particulier, mais ça fait partie.
Non,
on fait pas de Bitcoin. On a sorti un radiateur spécial.
Spécial
minage. Parce que là, vous touchez un sujet très intéressant, c'est-à-dire que le minage, tout le monde a parlé de ça. Alors, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Tout ce qu'on sait, c'est que ça consomme beaucoup
d'électricité. Voilà, il faut faire tourner des ordinateurs pour fabriquer l'authentification de la crypto-monnaie,
Après, c'est tout un vaste débat. À quoi ça sert,
oui, c'est tout
un sujet. Mais si au moins déjà la chaleur que ça dégage peut être récupérée, c'est déjà pas mal.
Bien sûr.
C'est pour ça qu'on a eu cette démarche-là. Donc, il y a ça, il y a tout ce qui est image de synthèse, tout ce qui est recherche en pharmaceutique, tout ce qui est recherche dans plein d'autres, dans l'industrie, les simulations. Les crash tests, toutes ces choses-là sont faites aujourd'hui en simulation. Donc ça, on aura, enfin, c'est pas prêt de s'arrêter, on pense, et ça ne fait aujourd'hui que augmenter.
Super, Paul Benoît.
Nouveau Monde spécial VivaTech 2019.
On va s'intéresser à une autre innovation française qui va dans le même sens, qui est meilleure pour la planète et qui est surtout meilleure pour nous, humains, puisque c'est un purificateur d'air. Les purificateurs d'air, c'est encore des produits pas très très connus et pas très utilisés, j'ai l'impression, en Europe, mais beaucoup plus en Chine, où la pollution, on le sait, est un problème majeur. Alors, il y a quelques start-up françaises en pointe sur ce secteur, et Tekoya, qui est basé en Gironde, Pierre Guiton, fabrique un purificateur que vous avez apporté, là, qui est devant nous, qui est un petit appareil, on va dire, ça ressemble à une petite enceinte connectée, je dirais, une petite enceinte sans fil. Quelle est sa particularité?
Sa particularité, c'est d'être conçu pour fonctionner 24 heures sur 24, jours sur 7, pendant 10 ans, de consommer 1,5 watts, c'est-à-dire l'équivalent de 3 euros pour un particulier français par an.
Donc
de pas faire de bruit
comme consommation.
Oui, c'est très très bas. C'est 10 à 100 fois inférieur à toute autre technologie de purification de l'air.
Oui, parce que alors bon, moi je vais vous raconter ma vie, mais j'ai un gros purificateur d'air chez moi de marque anglaise que je ne citerai pas, assez connu, qui fait bien le job, qui fait ventilateur, cela dit.
Absolument.
Le vôtre ne fait pas ventilateur, je crois. Mais qui doit consommer, enfin je pense, j'ai pas vérifié, mais je pense que ma facture électrique va en prendre un coup, hein.
Beaucoup plus, ouais, beaucoup plus. Ben, à tel point que, alors pourquoi Tekoya et nous, c'était quoi notre objectif? C'était d'une part d'offrir une solution de purification de l'air qui justement fonctionne tout le temps, en permanence. Pourquoi ça? Parce que la pollution de l'air, on le sait, elle est plus, c'est le bruit de fond de la pollution de l'air, c'est les petites doses qu'on inhale tous les jours qui sont les plus nocives pour la santé. Hein, c'est pas les pics de pollution, c'est pas forcément ce qu'on respire dans la rue d'ailleurs.
Ah bon?
C'est ce qu'on respire chez soi ou au bureau. C'est là où on passe le plus de temps, quoi. En gros, ouais. Et c'est des plus petites quantités, mais c'est en permanence. Ça vient de l'extérieur.
Certains meubles, la colle.
Oui, alors il y a des émissions de polluants à l'intérieur, et puis il y a aussi les transferts de polluants de l'extérieur vers l'intérieur, où on parle là de nanoparticules, de particules qui font quelques dizaines à une centaine de nanomètres et qui sont mal filtrés par les par les systèmes conventionnels et qui donc entrent. Et donc le système... premier point c'était ça, c'était purifier l'air en continu premièrement, et deuxièmement c'était de le faire de la façon la plus éco-responsable possible, d'autant plus que l'idée c'est de purifier en continu. Et pourquoi ça? Bah parce que le bilan carbone de la fonction purification de l'air est pas forcément très performant. Hein. C'est-à-dire que quand un purificateur d'air d'une marque anglaise que je ne citerai pas ou d'une autre piège un gramme de particules, en fait, en équivalent carbone émis dans l'atmosphère, c'est beaucoup plus.
Ça se compte en paradoxe terrible.
Donc quelque part, on est susceptible d'alimenter un mauvais bilan carbone si on promeut, si on développe trop largement la purification de l'air. C'est d'ailleurs des questions qui se posent dans des pays hyper pollués comme la Chine, où effectivement, au niveau de la réglementation, des choix techniques, ils se posent en permanence la question de ce qu'il y a lieu de faire pour éviter d'aggraver encore la situation.
Je me posais la question de savoir qu'est-ce que deviennent les particules une fois qu'elles sont traitées. Je l'ai testé chez moi, alors c'est vrai. Quasiment donc, pas de bruit.
Alors attendez, il me semble qu'on n'a pas précisé exactement comment ça marche. C'est un ionisateur, ouais. C'est ça, hein?
C'est un ioniseur.
Un ioniseur. Un ioniseur
qui émet des ions oxygène essentiellement, donc des ions O2-, donc une molécule d'oxygène à laquelle on a...
Donc il n'y a pas d'aspiration, soufflerie,
non,
etc.
Non, on diffuse des ions. Ces ions sont attirés par les particules qui flottent dans l'air, chargent les particules électriquement, et une fois que les particules sont chargées électriquement, elles sont attirées vers les surfaces, les meubles, le sol... Donc en fait, on remplace le filtre conventionnel par le ménage
hebdomadaire.
Faire un peu plus le ménage.
À peine plus dans la pratique, parce qu'on parle de quantités qui sont. On parle d'une pollution élevée, ça se compte en microgrammes par mètre cube. Donc si vous voulez, vous êtes susceptible de déposer.
Moi, je l'ai testé. Alors surtout, je trouvais ça. Quand j'ai ouvert, il y a aussi un appareil qui me permet de mesurer quel est le niveau de pollution de la pièce. C'est hyper anxiogène. On ouvre, teste. Et alors là, on s'attend au bleu, orange, rouge, boum. Bon, bah, c'était vert. En tout cas, donc c'était la bonne couleur. Mais c'est vrai que comment on mesure. Enfin,
dès
c'est
qu'on
quoi,
fait
le degré
un steak,
de mesure,
par contre, ça passe au rouge vif.
Ah bah, faut pas le mettre dans la rue derrière une sortie d'échappement, quoi, de voiture.
C'est sûr. Bah, comment on mesure l'effet? Effectivement, on peut le mesurer avec des capteurs de particules. Il y en a qui se développent sur marché, donc on va trouver des petits objets connectés à une centaine jusqu'à environ 300 €. C'est des appareils qui physiquement n'ont pas la faculté de détecter des particules inférieures à 300 nanomètres. Alors, hein, on rentre dans des chiffres un peu... la majeure partie de la pollution, elle est inférieure à cette taille-là.
Oui, voilà, c'est ça.
Donc ces capteurs-là, en fait, ne donnent pas une image quantitativement représentative de la vraie pollution, qui est inférieure à ça, et en plus les particules les plus toxiques, elles sont inférieures à cette taille-là, mais ça donne quand même un indicateur d'efficacité. Effectivement, donc dans un espace comme ça, qui est déjà filtré, je le souhaite pour nous, mais c'est probablement
j'espère
le cas.
Aussi, oui, à la maison de la radio, en général.
Ce genre de capteur ne va pas mesurer grand-chose, mais en revanche, il donne quand même, dans un espace en particulier, les espaces d'habitation qui sont pas du tout filtrés en général, il donne un indicateur d'un certain niveau de pollution, et il permet au moins de voir l'effet de l'appareil. C'est-à-dire proportionnellement, si l'appareil fait gagner 80%, ben ça va être vrai aussi des toutes petites particules. Voilà. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'on propose ce dispositif d'une marque partenaire pour offrir à nos clients le moyen de vérifier que ça marche, parce qu'effectivement, c'est un appareil qui ne fait pas de bruit, donc ça peut être assez perturbant.
Oui, hein. On s'était croisés il y a quelques temps, je crois que c'était il y a un ou deux ans avant d'aller au CES. Et vous me disiez à l'époque que le premier marché, c'était en Chine. Et c'est quand même assez rare, les startups françaises, dont le premier marché est chinois. Donc, je voulais savoir aujourd'hui comment ça se passait et si c'était toujours le cas.
Alors, c'est toujours le cas, plus que jamais. Nous, effectivement, dès le démarrage de Tekoya, on s'est dit, bon, le marché européen est tout petit. Hein, proportionnellement, les deux premiers marchés, c'est la Chine maintenant en premier et les États-Unis, mais la Chine en plus nette croissance. Et le futur marché, c'est l'Inde. Donc, c'est vrai que l'Europe, c'est un marché en croissance, mais c'est un tout petit marché avec une situation en termes de pollution qui est moins critique que dans ces zones-là. Et puis, c'est pas devenu un objet du quotidien comme ça l'est devenu aujourd'hui en Chine, le purificateur d'air. Et nous, dès le début, on s'est dit qu'on pouvait avoir un très bon produit, mais avoir beaucoup de mal à vivre si on se contentait si on essayait d'abord de se développer en France. Donc, dès le démarrage, on s'est dit la Chine.
Mais aujourd'hui, alors bravo, hein, vous êtes en Chine et tout, c'est super.
On
mais...
produit en France, hein, je précise quelque
oui, en
chose.
Plus, alors double bravo.
On fabrique en France, on vend en Chine.
Mais est-ce que vous ne craignez pas d'un jour vous faire dégommer comme une puce par des, je ne sais pas, des Xiaomi, des Dyson, des très grosses marques, étrangères?
Ce genre de risque, il existe toujours si on n'innove pas. Donc nous, on continue, on investit beaucoup en R&D, on travaille avec 6 laboratoires, on a 3, 4, 5 idées nouvelles en cours de développement plus ou moins avancées pour continuer d'innover, parce qu'effectivement, le risque sur notre marché, comme sur n'importe quel marché, c'est de se faire doubler, quoi.
Oui, et parce qu'on sait que c'est un peu toujours la même rengaine, hein, en ce qui concerne l'innovation en France, c'est comment passer du stade de start-up à celui de scale-up et même peut-être encore plus. C'est une rengaine qui revient en plus très souvent dans les allées de Vivatech chaque année.
Et notamment sur la question financière, sur la question du financement, pardon. Voilà, vous avez levé combien jusqu'à présent?
On a levé 1 million jusqu'à maintenant.
Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui de relever?
Oui.
Ouais.
Oui. Oui, parce que on a besoin d'accélérer, parce que même si on vend des produits et qu'on a une structure financière qui nous paraît saine, finalement, pour être capable de continuer de se développer, d'aller sur de nouveaux marchés, etc., il nous faut...
L'enjeu, c'est vraiment la vitesse d'exécution aujourd'hui?
Oui, alors nous, on met le premier enjeu sur la confiance, la qualité. Donc, on fait très attention à essayer de faire des produits, puis on les garantit 10 ans en plus. Donc, on ne peut pas se permettre de trop rigoler avec la qualité produit. Donc, on essaie de développer une marque de confiance. C'est ça notre première priorité. Et puis, la deuxième, c'est effectivement d'avoir une roadmap qui nous permet de continuer d'être attrayant et différenciant par rapport à ce qui se fait.
Super. Longue vie à Tekoya. Tekoya.
Nouveau Monde, spécial Vivatech 2019, présenté par Jérôme Colombin de France Info et Guillaume Brégeras du journal Les Échos.
On va passer de la qualité de l'air à l'énergie, à la maîtrise de l'énergie, avec Stéphane Quéré, donc de Engie. Stéphane, l'énergie, parce qu'en fait on s'aperçoit qu'il y a un paradoxe finalement, la technologie est censée servir comme ça la protection de l'environnement, mais elle produit elle-même, on l'a évoqué, ses propres défauts, elle a son propre bilan carbone, etc. Est-ce qu'elle peut vraiment être green, l'énergie, et notamment grâce aux technologies?
Elle a pas le choix, l'énergie. On vient de réaffirmer notre stratégie récemment. On se définit comme fournisseur de services pour la transition zéro carbone de nos clients, villes, industrie ou particulier. Parce que qu'est-ce qui se passe? Pendant longtemps, nos clients, quels qu'ils soient, voulaient maîtriser leur consommation d'énergie. Aujourd'hui, non seulement ils veulent la maîtriser, mais ils veulent maîtriser la façon dont elle est produite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on construit de plus en plus d'unités décentralisées à l'échelle de chaque client d'énergie renouvelable. Toutes ces unités d'énergie renouvelable, elles fonctionnent quand elles fonctionnent. Elle fonctionne pas quand on a appuyé sur le bouton pour qu'elle fonctionne. Vous savez, hein, le solaire, c'est quand il y a du soleil. Le vent.
Donc c'est un toit en panneau solaire.
Voilà. Les éoliennes, les barrages. Il faut. Voilà. On peut pas les piloter. Donc forcément, ce nouveau monde de l'énergie verte, eh bien, il faut de la tech pour qu'il fonctionne. Sinon, ça ne fonctionne pas. Il faut du stockage. Il faut de la modélisation de la production en utilisant les données, pas forcément les nôtres, mais celles aussi extérieures, la météo, tout ça.
Les données, c'est la clé de tout ça?
Les données, c'est absolument fondamental. On a, il y a 2-3 ans maintenant, construit une plateforme qui nous permet de savoir en temps réel ce qui se passe sur tous nos champs éoliens, solaires et hydraulique dans le monde entier. Alors, au-delà du fait de superviser en direct ce qui se passe, ça, avec les données qui sont produites, c'est un super bac à sable pour développer des nouvelles offres, l'amélioration de la performance. Ça nous a permis d'ouvrir des champs d'éoliennes en open data pour développer des nouveaux services. Ça nous permet de détecter quand il y a des baisses légères de production que, par exemple, une éolienne elle est pas dans l'axe du vent. Mmh. Bon. Donc, y a énormément de choses comme ça qui sont créées grâce aux données.
Et alors, donc, vous innovez, vous l'avez dit, parce que c'est une nécessité absolue, c'est presque une question de survie finalement pour vous, et vous faites beaucoup d'open innovation, c'est-à-dire que vous allez piocher des petites choses qui se font à droite à gauche, vous rachetez des startups, vous passez des partenariats avec des startups, etc. Vous avez un exemple ou deux à nous donner?
Oui, je parlais de la technologie qui permet d'apprivoiser, je dirais, le renouvelable par rapport à nos modes de consommation. Il y a maintenant de ça un mois, on a acquis une société qui s'appelle Tico, qui est une brique essentielle là-dedans. C'est-à-dire que Tico permet de connecter les appareils de la maison, chauffe-eau, pompe à chaleur, c'est encore mieux s'il y a un panneau solaire ou une batterie, et ça permet de favoriser l'autoconsommation, ça permet de faire des micro-coupures au moment où bah justement on tire un peu sur la consommation par rapport à la production ou par rapport à la puissance du réseau au moment où on veut consommer.
Des micro-coupures, mais vous allez vous faire tuer par vos abonnés, non? Comment vous leur expliquez ça?
Alors vous leur dites c'est pas à la seconde, ça ne se sent pas.
Ça ne se sent pas.
Ça ne se sent pas, absolument pas. Ça nuit absolument pas au confort. Par contre, ça permet d'améliorer l'autoconsommation.
Mon routeur Wi-Fi va pas tout sauter si vous lui balancez une micro-coupure.
Mais ça marche. Non.
Non, parce que vous me vendrez une batterie dans la foulée.
Alors, on ne connecte pas le routeur Wi-Fi, on connecte plutôt les systèmes énergétiques de la maison.
D'accord.
Et puis, si on va plus loin. Demain, vous avez votre panneau solaire, votre batterie, vos équipements à la maison. Peut-être que y a des moments où vous allez produire de l'énergie, vous n'allez pas la consommer. Peut-être qu'il sera intéressant pour vous financièrement de la revendre à votre voisin, qui lui en a besoin au moment où vous n'êtes pas chez vous.
Bien sûr.
Mais pour ça, il faut des équipements comme Tico, mais il faut aussi de la blockchain. Par exemple, pour certifier les transactions. Alors, pas du Bitcoin, parce que ça consomme énormément d'énergie. Mais il y a d'autres protocoles de blockchain qui sont en train de se développer, qui sont beaucoup moins énergétiforts, parce que évidemment, il faut que le bilan il reste positif.
Est-ce qu'on est loin de ça? Parce que ça paraît un peu de la science-fiction aujourd'hui quand on parle de vendre de l'énergie à son voisin via une crypto-monnaie. Sachant que les Français ne savent peut-être pas forcément tous aujourd'hui ce qu'est une crypto-monnaie.
Peu importe qu'il y ait une crypto-monnaie ou pas, c'est qu'on puisse faire la transaction.
Est-ce qu'on en est loin?
On n'en est pas très très loin. Nous, on a créé une start-up sur la blockchain qui s'appelle Théo, qui permet de tracer l'énergie verte entre un client et une source d'énergie, un barrage, une éolienne. Donc ça fonctionne et ça se vend. Okay. Et puis pour le reste, on a investi dans une start-up qui s'appelle Blockchain Studio, qui crée des protocoles justement pour rendre l'utilisation de la blockchain, la création de ce qu'on appelle des nœuds, mais enfin peu importe, l'utilisation de la blockchain plus facile, moins chère et moins énergétivore.
Donc dans 5 ans, je peux aller toquer à mon voisin ce soir et lui dire dans 5 ans, je te vends de l'énergie.
Je reviens dans 5 ans.
Formidable. Très bien, merci beaucoup. Merci Stéphane Quéré. Merci à vous également, messieurs. Pierre Guiton de Tekoya et Paul Benoît de Carnot. Peut-être avant de se quitter, un dernier mot à propos de... alors Vivatech, donc c'est au mois de mai. C'est un événement important pour vous? C'est rentré dans les mœurs ou pas encore? Ça doit encore faire ses preuves? Qu'est-ce que vous en pensez?
Bah écoutez, Paul Benoît, on trouve que c'est très bien. Cette année, on y sera, nous, avec la région Île-de-France. On faisait la blague tout à l'heure, on disait finalement, ça permet d'éviter d'aller à Las Vegas pour rencontrer tous les médias, les startups françaises et les hommes politiques français à 15 000 km de Paris. Donc, quelque part, c'est très très bien qu'il y ait ça à Paris. Donc, ça va faire... C'est la troisième édition, je crois.
Oui, c'est à peu près ça. Oui, je crois que c'est ça.
Quatrième.
Voilà, on est très. Et l'innovation à la française, elle est sur un bon trend, Stéphane Quéré?
Les exemples que je vous donnais sur la blockchain, ce sont des startups françaises.
Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Donc, nous parlions dans ce premier podcast aujourd'hui des Green Tech. On parlera, on va se retrouver tout au long du mois, en fait, hein, Guillaume, chaque semaine, chaque samedi, pour décliner les différents thèmes d'innovation. Alors, la semaine prochaine, on parlera de mobilité, les technologies au service de la mobilité, avec des choses assez incroyables, vous verrez. Et on recevra notamment le fondateur de BlaBlaCar, Frédéric Mazzella, ainsi que Frankie Zapata, qui est un petit peu l'Iron Man français, qui invente des engins incroyables pour se déplacer dans les airs ou au-dessus de l'eau. Qui vole au-dessus de l'eau, exactement. Oui. Et nous recevons également dans ce même podcast le directeur du centre de recherche d'Uber à Paris. Donc surtout, restez avec nous. Faites connaître ce podcast, hein, partagez-le, évidemment. Faites-le connaître autour de vous. Merci à vous, messieurs. Merci, Guillaume. Vous serez là également. Et on se retrouve à VivaTech le 16 mai prochain.